Les paractualités. Bonjour à vous toutes et vous tous. Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter les paractualités du lundi 8 mai 2017. Les titres aujourd'hui, inondation à Pierrefonds, près d'une cinquantaine de personnes ont été évacuées. Un article de loi discriminatoire envers les personnes en situation de handicap au Québec. Une entrevue avec Benoît Rassette, responsable des communications à Execo et animateur à Canal M, et ainsi qu'avec Pauline Boniface, coordonnatrice aux communications et au financement du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA, au sujet d'une expérience littéraire. Au CIVA, justement. Gestion des aides techniques, un changement pour le mieux, selon le CIS de Chaudière-Appalaches. Et puis en région à Lévis aussi, une course au profit des personnes les plus vulnérables. Une autre entrevue avec Geneviève Genet, intervenante accueil et soutien à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV, et également dans le monde étudiants à besoins spéciaux, non pardon, pas dans le monde, ici, chez nous quand même, au Canada, on n'est pas à l'étranger. L'université de Moncton est passée de 15 à 250 inscriptions et dans le monde, aux États-Unis, pourquoi Chris Pratt s'excuse en langue des signes et met la pression sur Instagram? Alors, près d'une cinquantaine de patients ont dû être évacués de façon préventive d'un bâtiment hospitalier dans l'arrondissement montréalais de Pierrefonds-Roxboro samedi. Les 47 résidents du pavillon Pierrefonds situé sur l'avenue du Château Pierrefonds à Montréal ont été déménagés avec succès à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal ainsi qu'au centre de réadaptation Lucie Bruneau et en résidence privée. Les familles des patientes, essentiellement une clientèle lourde qui y résidait pour la plupart depuis des décennies, avaient été informées de l'évacuation. S'il n'y a pas de risque d'inondation pour le bâtiment, les autorités ont assuré que la santé et la sécurité des résidents n'étaient pas compromises. Cette décision d'évacuer a été prise parce que la crue des eaux menace de couper l'accès à l'ensemble des installations du réseau de la santé pour les véhicules d'urgence, a indiqué le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette. Avec la météo qu'on annonce, on a décidé de ne pas prendre de chance. C'est de la prévention qu'on fait. C'est compliqué, mais il faut le faire, a dit le ministre. Monsieur Barrette était sur place en compagnie du maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios Djimbéis. Ce dernier a d'ailleurs indiqué samedi qu'une situation de cette ampleur n'a jamais été vécue dans l'arrondissement. Nous redoublons d'efforts afin de minimiser les dommages, a-t-il dit sur sa page Facebook. Vous pouvez être sûr que moi-même ainsi que toutes les équipes de l'arrondissement allons travailler. Un article d'Alice Chantal Chamden Kamgang, on se demande ici, un article de loi discriminatoire envers les personnes en situation de handicap au Québec. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse dénonce une pénalité discriminatoire à l'égard des personnes en situation de handicap qui atteignent l'âge de 65 ans et qui ont reçu une rente d'invalidité entre 60 et 65 ans. La Commission considère qu'une telle pénalité représente une atteinte grave à la Charte des droits et libertés de la personne. Elle s'appuie sur le fait que des personnes dans une condition aussi fragile ne peuvent être traitées de la même manière que tous ceux et celles qui décident d'anticiper leur retraite. Si les personnes en situation de handicap se retrouvent ainsi injustement pénalisées, c'est à cause de l'article 120.2 de la loi sur le régime des rentes du Québec. Selon les termes de la loi, avant 60 ans, il est tout à fait possible de prendre une retraite anticipée, sauf qu'il faut être payé, prêt à payer une pénalité. Cette pénalité est la même tant pour la personne qui reçoit une rente d'invalidité entre 60 et 65 ans que pour celle qui la reçoit à partir de 65 ans. Il est également à noter qu'à partir de 65 ans, la rente d'invalidité est remplacée par une rente de retraite. Compte tenu du fait qu'en général, les personnes qui perçoivent une rente d'invalidité sont défavorisées par une condition qui les empêche de travailler et de générer des revenus, la Commission des droits de la personne dénonce une atteinte à la dignité de ces personnes qui ont plus que jamais besoin de protection et de soutien. C'est pourquoi elle a saisi Retraite Québec et le ministre des Finances à travers un avis qui met en évidence l'injustice dont les concernés sont victimes et demande l'abolition pure et simple de l'article 120.2. « Peut-être connaissez-vous ce projet des libraires à domicile, les projets de libraires à domicile de l'Association des libraires du Québec qui propose depuis 2 ans diverses manières de favoriser l'accès à la lecture aux personnes qui sont limitées dans leurs déplacements. Eh bien, le 10 mai prochain, c'est-à-dire ce mercredi après-demain, c'est au tour du CIVA, le Centre d'intégration à la vie active, d'accueillir une expérience littéraire en compagnie de plusieurs artistes et groupes de personnes en situation de handicap. Et pour nous en parler, 2 personnes. D'abord, Benoît Racette, que vous connaissez certainement bien, responsable des communications à Execo et animateur à Canal M. Salut Benoît.
Bonjour Clotilde.
Et puis Pauline Boniface, coordonnatrice aux communications et au financement du Centre d'intégration à la vie active, autrement dit le CIVA. Alors, bonjour Madame Boniface.
Bonjour.
Alors, d'abord, je voudrais commencer par vous, Benoît Racette.
Parce qu'on est si habitué de se parler.
Oui, c'est ça. On va se vouvoyer comme le veut la tradition radiophonique, même si ça peut nous sembler un petit peu difficile. Benoît, rappelez-nous, comment c'est né Libraire à domicile et quelle est la mission de Libraire à domicile?
Il faut d'abord dire, vous l'avez déjà dit en introduction, mais c'est un projet qui a été pensé au départ par l'Association des libraires du Québec. Mm-hmm. Évidemment, ils sont allés consulter toutes sortes de gens qui étaient déjà sur le terrain, mais vous savez que l'ALQ défend les libraires indépendantes comme lieu de culture, défend aussi le métro, le métier de libraire comme agent de médiation culturelle. Donc, se sont dit, il faut bien que les libraires aillent voir partager la lecture avec des artistes, à des gens qui sont peut-être dans des, j'oserais dire, qui sont un peu captifs ou qui peuvent pas se rendre dans les lieux culturels. Alors, ils ont approché avec ça en tête et, vous le savez peut-être, donc là, c'est pas Benoît à Canal M, mais Benoît à Execo qui parle.
Bien sûr.
Execo trouve ça intéressant comme projet, mais avait envie aussi de dire, mais les gens peuvent-ils aller là où ils veulent? Peuvent-ils fréquenter les lieux qu'ils veulent? Et ils nous ont entendus, ils ont trouvé ça très intéressant et on aura d'ailleurs des projets à annoncer officiellement le 10. Je ne vais pas vous donner la primeur, malheureusement, Catherine.
mais vous, Benoît, c'est un projet qui vous tient à cœur, hein, personnellement. Vous aviez envie de vous retrouver dans cette aventure-là.
Ben, d'abord, le plaisir des mots, c'est essentiel. Mm-hmm. Les personnes ont toutes sortes de manières de s'exprimer.
Bien sûr.
La lecture, ça peut être un des moyens. La lecture, ça nous fait entrer dans le monde. Ça permet d'être inclus avec les autres, de discuter avec les autres. Je trouvais ça très, très excitant. Aussi, la LQ cherche à rencontrer toutes sortes de publics, pas juste les gens qui ont l'habitude d'écouter votre émission, par exemple, Clotilde.
Oui. Oui, délivre plein. Les oreilles, oui, merci, Benoît.
Voilà, il faut le rappeler. Mais aussi des personnes qui, peut-être naturellement, on pense pas à eux, on pense pas aux personnes âgées, aux enfants malades, etc. Donc, c'est dans cette foulée-là que le projet Libraire à domicile, disons, version personnes en situation de handicap, est apparu.
Pauline Boniface, vous êtes coordonnatrice aux communications et au financement du Centre d'intégration à la vie active. Pouvez-vous nous rappeler, très brièvement, bien sûr, mais quelle est la mission du CIVA?
Bien sûr. Donc le CIVA existe depuis 1961 sur une initiative à la base de l'Université McGill et a vraiment pour mission d'aider les personnes ayant une déficience motrice à s'intégrer et participer activement à la vie de la communauté afin de se sortir en fait principalement de leur statut de handicap. Mm-hmm. Et donc nous proposons 4 volets de services qui sont le soutien à l'intégration, le volet jeunesse, un volet sportif et un volet culturel.
Et pourquoi avez-vous décidé de vous impliquer dans ce projet?
On a dans nos membres certains qui ont une déficience visuelle ou d'autres qui peuvent avoir une déficience intellectuelle légère et qui ont donc parfois un accès un peu plus limité et plus compliqué à la littérature notamment. Du coup, on a été vraiment séduits par ce projet de libraire à domicile qui permet d'apporter la culture plus facilement
à
nos clients.
Oh que oui, à leurs oreilles éventuellement.
Exactement.
Alors le 10 mai, c'est-à-dire après-demain, c'est donc vous qui allez accueillir cette expérience littéraire-là. Comment va se dérouler cette soirée de mercredi soir?
Alors elle se déroule en 2 étapes. On a mis en place dans un premier temps avec l'ALQ donc un atelier littéraire qui est réservé à nos membres et qui sera animé par Biz. Et
oui.
Ensuite, on suivra un 5 à 7, donc on a appelé Art pour tous, qui lui est ouvert à tout le monde et a pour objectif de promouvoir donc l'accessibilité à la culture et qui comprendra des performances artistiques avec notamment Angèle Coutu, mais aussi donc la participation de différents acteurs du milieu comme l'a signifié Benoît Racette.
Et notamment, Benoît, Vues et Voix fait partie prenante, hein, est partie prenante de cette soirée-là. Quel est le rôle de notre organisme?
Ben, écoutez, vous, les gens qui nous entendent vont être très heureux d'apprendre ça, mais l'accessibilité à la lecture, vous y travaillez tous les jours, non seulement à Vues et Voix, mais même à Canal M. Et donc, Marjorie Théodore sera présente lors de la soirée pour annoncer aussi un projet super intéressant qui implique Vues et Voix et qui sera surtout mis en valeur dès l'automne. Donc, et elle en profitera aussi pour rappeler l'importance de la mise en disponibilité des textes en version audio. Donc, s'il faut accéder à l'art, s'il faut accéder au livre, ben, c'est aussi pour les personnes qui sont aveugles. Donc, c'est une des raisons de sa présence.
Ben, ça, c'est formidable parce que c'est vrai que c'est pas... Parce que là, on pourrait penser que je vais nous flatter dans le sens du poil, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai Vues et Voix, on cherche à améliorer, on cherche à offrir d'autres services. Alors, j'ai l'impression que c'est dans cette direction-là qu'on s'en va, quoi. Alors, Madame Boniface, pour terminer cette entrevue, dites-nous comment les gens peuvent-ils participer à cette soirée, ceux qui le souhaitent. Il faut s'inscrire, on y va directement, combien ça coûte, etc.
Oui, alors c'est donc le 5 à 7 est ouvert à tout le monde, mais il est sur réservation obligatoire. Il nous reste encore quelques places, donc ce sera avec plaisir pour ceux qui veulent participer. Pour s'inscrire, il suffit juste de nous contacter soit par téléphone, le numéro donc c'est le 514-935-1109.
935, pardon, 1109 dans le 514, d'accord.
Ou alors nous envoyer un courriel à l'adresse info@commercialsiva.qc.ca.
Et je répète que SIVA, c'est CIVA.
Hein? CIVA, tout à fait.
D'accord. Et il y a un coût
assez gratuit. C'est tout à fait gratuit.
Et combien de personnes peuvent assister à ça à peu près?
Pour l'instant, on a prévu sur une soixantaine de personnes, de
d'accord.
participantes.
Et c'est où? À quelle adresse?
Donc, ça se trouve au SIVA, dans nos locaux, dans la salle 100. L'entrée adaptée se fait au 2290 rue Workman.
Rue Workman?
Voilà.
W-O-R-K-M-A-N?
Tout à fait.
Comme les vieilles bébelles, là, qu'on se mettait sur les oreilles.
Mais je redonnerai toutes les infos à chaque personne qui souhaite s'inscrire.
Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça trahit mon âge.
Oh non, mais le mien aussi. D'ailleurs, j'espère que vous serez des nôtres ce 10 mai prochain.
Si la vie me le permet et si l'agenda m'en laisse toute latitude, j'aimerais beaucoup assister à ça, effectivement, Benoît.
Je serais très heureux. En tout cas, si vous pouvez,
d'accord.
C'est certain qu'on peut réserver une petite lecture pour vous, en quelque sorte.
Mais j'adorerais ça, hein, vous le savez. Alors, merci beaucoup à Benoît Racette. Je rappelle que vous êtes responsable des communications à Execo, en plus, bien sûr, d'être animateur à Canal M. Et Pauline Boniface, coordonnatrice aux communications et au financement du CIVA, le Centre d'intégration à la vie active. Bonne journée à tous les deux.
Merci.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Par actualité régionale, le 1er avril 2016, le Centre intégré de santé et des services sociaux, le CIS de Chaudière-Appalaches, rapatriait la gestion du prêt d'équipement et d'aide technique pour le maintien à domicile des personnes à mobilité réduite et des aînés, écrit Serge Lamontagne de TC Communication, TC Média, dans la Voix du Sud. Si le dossier avait fait couler beaucoup d'encre dans la région des Etchemins, la poussière semble être retombée un an plus tard. Responsable du département de logistique au CIS, Carole Borde reconnaît que la dernière année a été des plus chargées. Avant de rapatrier les 1300 équipements localisés chez TSS-CA, autrement dit Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches, il fallait procéder à des travaux d'amélioration au sous-sol du sanatorium de Lac Etchemin pour accueillir ce matériel. Il n'y avait aucun doute pour nous que ceci devait rester à Lac Etchemin, signale la gestionnaire qui précise que la configuration des lieux a permis d'aménager des aires spécifiques dédiées à la réception des équipements souillés et à leur nettoyage, puis à l'emballage et au stockage de ceux-ci avant livraison chez les usagers qui en font la demande. Cette réorganisation a été effectuée pour le bien-être des usagers de Chaudière-Appalaches, bien que nous ayons réalisé des économies significatives comme prévu. La prise en charge du service par le CIS s'est traduite par l'élaboration de nouvelles procédures qui, au dire de Mme Borde, ont permis d'éliminer les listes d'attente, que ce soit au programme d'aide à la vie domestique et à la vie quotidienne ou à la fonction élimination, fourniture entre autres de culottes d'incontinence, sans avoir à limiter l'accès à certains services ou injecter de nouvelles sommes d'argent. Carole Borde ajoute que 1888 usagers différents ont été desservis en Chaudière-Appalaches au cours de la dernière année contre 1697 l'année précédente. Et au cours de l'année, c'est un peu plus ou presque 10 000 livraisons ou récupérations d'équipements qui ont été effectuées chez les usagers. Ces équipements de taille moyenne ou imposante comprennent des lits, des lèvres patients et des matelas, ainsi que des fauteuils roulants et auto-souleveurs notamment. Mélanie Labrec de TC Média écrit au sujet d'une course au profit des personnes les plus vulnérables que Richard Fournier enfilera ses souliers de course le dimanche 28 mai prochain pour participer au demi-marathon d'Ottawa. Pour le quinquagénaire, cette première expérience sur 21,1 km est l'occasion rêvée de s'associer à une cause, la campagne de financement de l'atelier occupationnel Rive-Sud, qu'on appelle aussi l'AORS, A-O-R-S pour l'acronyme. D'ici le 31 mai, il souhaite amasser 2 000 $. Il est en bonne voie de toucher son objectif, qu'il a déjà revu à la hausse à 2 reprises. À 3 semaines de l'événement, M. Fournier a récolté 1 870 $. Ce dernier est le fier papa d'une jeune femme de 27 ans qui est atteinte d'un handicap et qui est aussi membre du conseil d'administration de l'organisme. Il est donc à même de constater tous les bienfaits que l'AORS peut apporter à ces personnes qui sont un peu mises à l'écart de la société. C'est pour cette raison qu'il a décidé de participer. Chaque année, je me fais toujours un petit défi sportif. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller chercher... Je me suis perdu un petit peu, mais je vais me reprendre, c'est sûr. Voilà, je me suis dit, pourquoi ne pas aller chercher la motivation en contribuant à la campagne de financement de l'atelier? Ça permet aussi de montrer qu'il s'agit d'une source de financement viable. Les besoins à mentionner Richard Fournier sont criants. Actuellement, 80 personnes fréquentent l'atelier. Nous avons refusé des gens et des contrats de sous-traitance parce que nous n'avons pas l'espace pour les accueillir. On a décidé de faire notre possible pour offrir plus de services. L'agrandissement de leurs locaux, situés sur le boulevard Guillaume Couture, permettra à terme de recevoir 140 personnes. Madame Genet, Geneviève Genet, est une habituée de l'émission. Elle est intervenante, accueil et soutien à l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, soit l'ACPEV. Et avec elle, aujourd'hui, nous allons parler de la 37e rencontre familiale annuelle qui donnera lieu également à l'Assemblée générale le samedi 3 juin prochain. Bonjour, Madame Genet.
Bonjour.
Tout va bien pour vous?
Ça
en ce moment? Bon, alors je voudrais que vous nous rappeliez, Geneviève Genet, un petit peu, si par hasard quelqu'un ne vous connaissait pas de l'autre côté des ondes, ce qu'est l'ACPEV.
Oui, bien l'ACPEV, c'est un organisme communautaire provincial pour les parents d'enfants qui ont des déficiences visuelles, principalement de 0 à 21 ans. On mise beaucoup aussi sur les 0-12 ans avec notre programme d'action communautaire pour les enfants. Puis l'objectif de l'ACPEV, bien, c'est de regrouper les parents, d'offrir à ses parents puis aux familles des services complémentaires aux services publics, donc aux services de réadaptation, de la santé et des services sociaux. C'est aussi de favoriser, de participer à la concertation entre les différents groupes intéressés à la déficience visuelle avec les organismes partenaires et tout ça. C'est aussi de promouvoir l'intégration sociale des enfants qui ont une déficience visuelle.
Alors, le samedi 3 juin 2017, Madame Genet, de quoi s'agit-il? Quel genre de soirée? On parle d'une rencontre familiale annuelle?
Oui, bien, la rencontre se déroule environ de 11h à 23h, donc c'est une grosse journée.
Ah, c'est toute la journée, c'est pas
toute
seulement une soirée, là, oui.
Exactement, donc c'est vraiment la rencontre familiale et assemblée générale, donc ça fait une grosse journée. C'est à l'hôtel Mont-Gabriel, à Sainte-Adèle, puis on commence vers 11h, de 11h à 13h, par un dîner familial. On a aussi l'assemblée générale qui va suivre, ensuite un cocktail, le souper banquet pour tous les participants, une soirée animée avec cette année une animation meurtre et mystère avec des comédiens et tout ça.
Ah oui!
Oui, puis par la suite, les jeunes viennent rejoindre les parents, puis il va y avoir une soirée dansante là, avec de la musique et tout ça.
Qu'est-ce que vous allez en faire des jeunes pendant ce temps-là? Là?
Pendant ce temps-là, ben, effectivement, à partir de 11h, on ouvre la halte garderie pour les enfants 0-5 ans avec notre équipe d'éducatrices spécialisées avec un ratio d'accompagnement d'environ une éducatrice pour deux enfants. Puis puis on adapte aussi selon les besoins des enfants. Des fois, on a certains enfants qui nécessitent un accompagnement un pour un, donc on l'offre aussi. Même chose pour l'activité des jeunes 6 ans et plus qui s'en vont en activité au camp de filles. Ils vont faire les plus jeunes vont faire de l'hébertisme, les plus vieux un parcours aérien. Ils vont pouvoir aussi tous aller à la piscine intérieure. Puis en cas de pluie, l'activité a lieu quand même. Il va y avoir des activités au gymnase là, selon la météo. Puis c'est accompagné par les moniteurs du service des loisirs de la Fondation des aveugles du Québec. Comme à l'habitude, le souper va être servi sur place pour les jeunes là-bas. Puis, ils vont avoir un feu de camp avec animation en soirée aussi. Donc, avant le retour, parce qu'ils vont revenir à l'hôtel vers 9h, 9h30 quand même.
Ben oui, hein. Puis, ils vont être crevés.
C'est ça. Pour ceux qui leur restent un peu d'énergie, ils vont pouvoir aller danser.
Oh là là, je sens soirée. Que ça va bien dormir. Oui. Et du côté des organisateurs et des participants.
Exactement.
L'ACPEV organise assez régulièrement des journées d'échange tout au long de l'année. Mais là, ça n'a rien à voir. Là, on parle de complètement autre chose. Hein?
Oui, c'est différent. Bien, nos journées d'échange, on en a deux, une à l'automne, une à l'hiver. C'est
d'accord.
Vraiment des journées avec conférences ou ateliers pour les parents. Le même genre d'activité pour les enfants. Par contre, ça, c'est vraiment plus festif, la rencontre familiale annuelle. Et il y a un dîner et un souper.
Bien oui.
Un dîner seulement. Puis on a l'Assemblée générale des membres. Donc, c'est une belle occasion de venir pour entendre parler de tout ce qui s'est fait pendant l'année.
Bien sûr.
Le fonctionnement de l'organisme et tout ça. Puis cette année, on introduit on va présenter notre nouveau directeur général qui est arrivé au mois d'avril et annoncer. Ça va être la dernière activité de notre directeur général sortant, Roland Savard, qui, après 16 ans à l'ACPEV, prend sa retraite.
Bien mérité quand même, après 16 ans. Hein. Qui peut participer à cette journée, à cette soirée et comment? Comment
c'est
on
vraiment,
fait?
C'est ouvert à tous, les gens. Puis c'est sûr que principalement, ça va être des parents d'enfants qui ont des déficiences visuelles avec des familles, mais les organismes, les partenaires ou toute personne intéressée peut s'inscrire, soit en nous téléphonant ou via notre site Internet. On peut faire l'inscription en ligne ou par téléphone, par carte de crédit. Ça peut se faire par la poste aussi si les gens ont les documents. Tous les documents, les informations sont disponibles sur notre site Web.
Qui est donc, j'imagine, aqpehv.qc.ca. .qc.ca. Bon, d'accord. Donc ça, c'est assez facile à retenir. Et c'est gratuit?
En fait, il y a un coût d'inscription, étant donné que ça se fait à l'hôtel avec dîner, souper, tout ça.
Ben oui, je comprends.
Les gens peuvent voir les forfaits selon prix membre actif pour les
d'accord.
parents. Prix membre de soutien organisme, mais on a un forfait non-membre également pour qui inclut à partir du cocktail, le souper, la soirée quand même pour les non-membres. C'est 60 $ par adulte.
D'accord, mais pour tout ça. Bon, ben écoutez, merci beaucoup Geneviève Genet d'avoir répondu à mes questions. On rappelle que cette 37e rencontre familiale annuelle, qui sera suivi d'une assemblée générale, aura donc lieu le samedi 3 juin 2017. Rappelez-nous à quel hôtel ça se passe?
À l'hôtel Mont-Gabriel, à Sainte-Adèle, et la date limite d'inscription est le vendredi 19 mai.
OK. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous invitait dès maintenant, pour que les gens aient le temps d'aller s'inscrire. Voilà.
Exactement. Merci.
Mais je vous en prie, Mme Genet, passez une très belle fin de journée.
Bonne journée à vous. Au revoir.
Au revoir. Étudiants à besoins spéciaux, l'Université de Moncton est passée de 15 à 250 inscriptions. Les étudiants avec incapacité physique et neurologique sont de plus en plus nombreux à poursuivre des études postsecondaires. Alors qu'ils étaient 15 à l'Université de Moncton au tournant du millénaire, ils sont aujourd'hui plus de 250. Par exemple, Noah Duga, qui a 16 ans, qui est atteint de dystrophie musculaire. Il se déplace à l'aide d'un fauteuil roulant à base motrice et doit compter sur l'aide des autres pour se nourrir, se vêtir et pour ses soins personnels. À l'école, il a le droit à un coup de pouce d'une assistante à l'intérieur et à l'extérieur de la salle de classe. Ce service lui est fourni par le ministère de l'Éducation du Nouveau-Brunswick. Une fois sorti du système scolaire public, il devra se débrouiller pour trouver les ressources nécessaires qu'il souhaite intégrer, une institution postsecondaire. Luc Duga, père de Noah, s'inquiète du coup. La personne qui va l'accompagner, ça va être son travail à temps plein. C'est certain que ça va nous coûter beaucoup d'argent. Si on doit tout payer de notre poche, je sais que Noah est capable de réussir, mais je ne sais pas comment nous, on va s'y prendre. pour trouver les fonds. La situation de NOAA, bien que particulière, n'est pas unique. Depuis les années 2000, l'Université de Moncton a vu une montée fulgurante d'étudiants à besoins spéciaux intégrer ses salles de classe. Ils étaient 64 à être inscrits en 2008, 136 en 2011, puis près de 250 en 2016. On attribue cette montée soudaine de cette tranche de la population estudiantine aux efforts de dépistage faits dans les écoles. À l'international maintenant, pourquoi Chris Pratt s'excuse en langue des signes et met la pression sur Instagram? Il a connu M. Pratt notamment, il est connu pour son rôle dans Jurassic World et dans la série Parks and Recreation, appelons ça comme ça, Parcs et Récréation. Il a publié jeudi 4 mai dernier donc sur Instagram une vidéo dans laquelle il s'exprime en langue des signes, une vidéo pas anodine. L'acteur américain y explique pourquoi il se moquait. Il se moquait du sous-titrage dans une autre vidéo publiée sur la page Facebook de Marvel Studios pour la promotion des Gardiens de la Galaxie 2. Dans cette vidéo, depuis supprimée, Chris Pratt regrettait que les vidéos soient regardées sans le son sur les réseaux sociaux, un usage qui, selon l'acteur, empêcherait les internautes d'assimiler toutes les informations. La publication a depuis été supprimée. « Je me rends compte maintenant », a-t-il dit, « que c'était incroyablement insensible envers les nombreuses personnes qui dépendent des sous-titres », écrit l'acteur dans son nouveau post. « Plus de 38 millions d'Américains vivent avec une sorte de déficience auditive. Je tiens donc à m'excuser. J'ai des personnes dans ma vie qui ont des troubles auditifs et la dernière chose que je voudrais est de les offenser », a-t-il poursuivi. Il va plus loin et il interpelle le réseau social en lui demandant, donc Instagram, en lui demandant d'agir. « J'ai fait un peu de recherche, il y a des manques dans ce domaine. Ne devrait-il pas y avoir une option pour le sous-titrage ou quelque chose dans le genre ?» Dieu sait combien d'argent ils se sont fait, Instagram, avec mes vidéos et mes photos. Je les partage gratuitement et je sais qu'ils en profitent. Alors, bouge-toi, Instagram. À la bibliothèque de Varennes, le service Art, Culture et Bibliothèque travaille actuellement à l'élaboration d'un projet spécial qui s'adresse spécifiquement à une clientèle ayant une déficience visuelle. Ils sont à la recherche de 10 personnes qui aimeraient participer en toute convivialité à une expérience personnalisée dans le cadre d'un événement exceptionnel qui aura lieu à la bibliothèque de Varennes au cours de l'année 2017. Alors, deux rendez-vous sont prévus dans le cadre de ce projet. Dans un premier temps, une rencontre rétrospective avec un artiste dont le fils vit avec une déficience visuelle. Une seconde visite où le groupe participera à une expérience inédite par le biais d'une exposition réalisée pour répondre maximalement aux besoins des personnes malvoyantes et non-voyantes. Critères d'admissibilité, vivre avec une déficience visuelle, être âgé de 18 ans et plus, résider sur le territoire de Varennes, être disponible pour deux rencontres d'environ 1h30 chacune à la bibliothèque de Varennes, date à venir, avoir un intérêt pour les arts visuels et réserver sa place par téléphone ou courriel auprès de la responsable du projet. La responsable en question, c'est Pascal Champagne, Pascal Le Champagne, donc pascalle.champagne comme le vin, mousseux@ville.varenne.qc.ca. C'était les paractualités du 8 mai 2017. Merci de les avoir suivis. Bonne journée, à demain, 11h30.